L'école rendait la guerre encore plus cathartique. La guerre servait à démolir l'ennemi, et donc à ne pas se démolir soi-même. L'école servait à régler ses comptes avec les alliés. Ainsi, la guerre servait à vidanger l'agressivité sécrétée par la vie. Et l'école servait à épurer l'agressivité sécrétée par la guerre. Moyennant quoi, nous étions très heureux. Mais l'affaire Werner provoqua des remous parmi les adultes. Les parents d'Allemagne de l'Est firent savoir aux parents des Alliés que cette fois, leurs enfants étaient allés trop loin. Puisqu'ils ne pouvaient exiger le châtiment des coupables, ils réclamaient l'armistice. Faute de quoi, s'ensuivraient des représailles diplomatiques. Nos parents leur donnèrent raison immédiatement. Nous eûmes honte pour eux. Une délégation adulte vint admonester nos généraux. Elle allégua que la guerre froide n'était pas compatible avec notre guerre brûlante. Il fallait arrêter. Il n'y avait pas de discussion possible. C'était les parents qui possédaient la nourriture, les lits et les voitures. Pas moyen de désobéir. Nos généraux eurent néanmoins le cran de faire valoir que nous avions besoin d'ennemis. Pourquoi ? Mais pour la guerre. Nous n'en revenions pas que l'on pût poser une question aussi tautologique. « Vous avez vraiment besoin de guerre ?» demandèrent les adultes avec un air accablé. Nous comprîmes à quel point ils étaient dégénérés et nous ne répondîmes pas. De toute façon, aussi longtemps que durerait le gel, les hostilités seraient suspendues. Les parents crurent que nous avions signé l'armistice. En fait, nous attendions la débâcle. L'hiver fut une épreuve. Épreuve pour les Chinois qui crevaient de froid, ce qui, il faut l'avouer, ne préoccupait pas les enfants de Sanlitun. Épreuve pour les enfants de Sanlitun, condamnés à piocher la glace du ghetto pendant leur temps libre. Épreuve pour notre agressivité contenue jusqu'au printemps. La guerre nous apparaissait comme un Graal. Mais la couche de neige gelée à déblayer augmentait chaque nuit et nous avions l'impression de nous éloigner du mois de mars. On eût pu croire que piocher assouvissait notre soif de violence. Au contraire, c'était de l'huile sur le feu. Certains blocs de glace étaient si durs que, pour nous donner plus de force, nous imaginions que nous abattions les pics sur de la chair allemande. Épreuve pour moi, enfin, sur tous les fronts de mon amour. Je respectais la consigne à la lettre, et j'étais vis-à-vis d'Héléna aussi froide que cet hiver pékinois. Or, plus je collais à la consigne, plus la petite Italienne me couvait de son grand regard tendre. Oui, tendre. Je n'eus jamais imaginé qu'elle pût avoir cette expression un jour, et pour moi. Je ne pouvais pas savoir qu'elle et moi appartenions à deux espèces différentes. Héléna faisait partie de ceux qui aiment davantage quand on leur bat froid. Moi, c'était le contraire. Plus je me sentais aimée, plus j'aimais. Certes, je n'avais pas attendu que la belle me regardait avec tendresse pour tomber amoureuse d'elle. Mais ses nouvelles dispositions à mon endroit décuplaient ma passion. Et j'en arrivais à délirer d'amour. La nuit, dans mon lit, je revoyais les yeux doux qui m'avaient caressé et j'atteignais un état hybride, mi-tremblement, mi-pamoison. Je me demandais ce que j'attendais pour céder. Je ne doutais plus de son amour. Il ne me restait qu'à y répondre. Je n'osais pas. Je sentais que ma passion avait pris des proportions formidables. La déclarer m'entraînerait très loin. Il faudrait plus que du langage, il faudrait cet au-delà devant lequel j'étais démunie à force de ne pas comprendre, à force d'entrevoir sans comprendre. Et je m'en tenais à la consigne qui était de plus en plus pénible, mais dont le mode d'emploi ne posait pas mystère. Et les œillades d'Héléna se faisaient de plus en plus insistantes, de plus en plus déchirantes, car moins un visage est conçu pour la douceur, plus sa douceur sera confondante. Et la douceur de ses yeux s'agitèrent, et la douceur de sa bouche de peste me congestionnait. Du coup, j'éprouvais le besoin de me blinder davantage, et je devenais glaciale et coupante comme la grêle, et le regard de la belle se veloutait de tendresse aimante. C'était insoutenable. Comble de cruauté, la neige. La neige qui avait beau être laide et grise comme la cité des ventilateurs, n'en était pas moins de la neige. La neige dans laquelle mes tâtonnements analphabètes avaient vu l'image de l'amour par excellence, ce qui n'était certainement pas gratuit. La neige, pas innocente du tout sous sa béatitude candide. La neige, où je lisais des questions qui me donnaient très chaud et puis très froid, la neige sale et dure, que je finissais par manger dans l'espoir d'y trouver une réponse, en vain. La neige, eau éclatée, sable de gel, sel non pas de la terre mais du ciel, sel non salé, au goût de silex, à la texture de gemme pilée, au parfum de froidure, pigment du blanc, seule couleur qui tombe des nuages. La neige qui amortit tout, les bruits, les chutes, le temps, pour mieux mettre en valeur les choses éternelles et immuables, comme le sang, la lumière, les illusions. La neige. Premier papier de l'histoire sur lequel furent écrites tant de traces de pas, tant de poursuites sans merci. La neige qui fut donc le premier genre littéraire. Immense livre à fleurs de terre, où il n'était question que de pistes de chasse, ou de l'itinéraire de son ennemi, sorte d'épopée géographique qui donnait au moindre signe une valeur d'énigme. Ce pied-là était-il celui de son frère ou du meurtrier de son frère? De ce bouquin kilométrique et inachevé, qui pourrait s'intituler « Le plus vaste livre du monde », il ne nous est resté aucun fragment. C'est le contraire de la bibliothèque d'Alexandrie. Tous les textes ont fondu. Mais il a dû nous en demeurer une lointaine réminiscence qui ressurgit à chaque nouvelle neige, sorte d'angoisse de la page blanche qui donne une terrible envie de fouler les espaces encore vierges et instinct d'exégète dès que l'on croise la trace d'un autre. Au fond, c'est la neige qui a inventé le mystère. Par le fait même, c'est elle qui a inventé la poésie, l'estampe, le point d'interrogation, et ce grand jeu de pistes qu'est l'amour. La neige, faux linceul, grand idéogramme vide où je décryptais l'infini des sensations que je voulais offrir à ma bien-aimée. Je ne me préoccupais pas de savoir si mon désir inconnu était pur ou impur. Je sentais seulement que cette neige rendait Elena encore plus irrésistible, le mystère encore plus frissonnant et la consigne encore plus insupportable. Jamais printemps ne fut aussi gaieté. Il faut se méfier des fleurs, surtout à Pékin. Mais le communisme était pour moi une affaire de ventilateur, et l'épisode des 100 fleurs m'était aussi inconnu que Ho Chi Minh ou Wittgenstein. De toute façon, avec les fleurs, les avertissements ne servent à rien. On tombe toujours dans le panneau. Qu'est-ce qu'une fleur? Un sexe géant qui s'est mis sur son 31. Cette vérité est sue depuis longtemps. Ce qui n'empêche pas les grands dadais que nous sommes de parler de la délicatesse des fleurs avec mièvrerie. On va jusqu'à dire, des soupirants niais, qu'ils sont fleurs bleues. C'est aussi incongru et inadéquat que de les déclarer sexe bleu. À Sanitun, il y avait très peu de fleurs, et elles étaient moches. Mais c'était quand même des fleurs. Les fleurs de serre sont belles comme des mannequins, mais elles n'ont pas d'odeur. Les fleurs du ghetto paraissaient fagotées. Certaines étaient aussi vilaines que des paysannes allant à la métropole. D'autres étaient aussi inélégantes que des citadines à la campagne. Toutes semblaient à côté de la question. Pourtant, si l'on enfouissait son nez en leur corolle, si l'on fermait les yeux et se bouchait les oreilles, on avait envie de pleurer. Que peut-il donc y avoir au fond des fleurs les plus quelconques, au parfum banalement agréable? Que peut-il donc y avoir de si déchirant? Pourquoi cette nostalgie de souvenirs qui ne sont pas les siens, de jardins qu'on n'a jamais connus, de beauté impériale dont on n'a jamais entendu parler? Par quelles conséquences la révolution culturelle n'a-t-elle pas interdit aux fleurs de sentir la fleur? À l'ombre du ghetto en fleurs, la guerre put enfin recommencer. Ce fut la débâcle, dans tous les sens du terme. En 1972, les adultes avaient récupéré notre guerre, ce qui nous indifféra profondément. Au printemps 1975, ils la sabotèrent, ce qui nous écœura. À peine la glace avait-elle fondu, à peine nos travaux forcés étaient-ils terminés, à peine avions-nous repris le combat avec extase et frénésie que les parents offusqués vinrent jouer les rabat-joie. Et l'armistice? Nous n'avons jamais rien signé. Parce qu'il vous faut des signatures, très bien. Nous nous en occupons. Ce fut un cauchemar du dernier grotesque. Les adultes dactylographièrent un traité de paix amphigourique à souhait. Ils convoquèrent des généraux des camps adverses à une table de négociation où il n'y eut rien à négocier. Ils lurent à haute voix le texte français et le texte allemand. Nous ne comprîmes aucun des deux. Nous avions seulement le droit de signer. Par la grâce de cette humiliation commune, nous n'avions jamais ressenti une sympathie aussi profonde pour nos ennemis. Et c'était visiblement réciproque. Même Werner, qui était à l'origine de cette parodie d'armistice, paraissait dégoûté. Au terme de ces signatures d'opérette, les adultes crurent de bon ton de nous faire porter un toast à la limonade gazeuse dans des verres à pied. Ils semblaient contents et soulagés, ils souriaient. Le secrétaire de l'ambassade d'Allemagne de l'Est, un arien affable et déguenillé, chanta une petite chanson. Et ce fut ainsi que, après avoir récupéré notre guerre, les parents récupérèrent notre paix. Nous avions honte pour eux. Le résultat paradoxal de ce traité artificiel fut un engouement réciproque. Les anciens ennemis tombèrent dans les bras les uns des autres, pleurant de colère contre leurs aînés. Jamais Allemand de l'Est n'avait été aussi aimé de par le monde. Werner sanglotait. Nous l'embrassions. Il avait trahi, mais c'était de bonne guerre. Pléonasme. C'était de guerre, donc forcément bon. La nostalgie commençait déjà. Nous échangions en anglais de beaux souvenirs de combats et de tortures. On eût cru une scène de réconciliation dans un film américain. La première, non, la seule chose à faire était de nous trouver un ennemi nouveau. N'est pas ennemi qui veut. Il y avait des critères à satisfaire. Le premier était géographique. Il fallait que la nation élue fût installée à Sanlitun. Le second critère était historique. Il ne fallait pas se battre contre d'anciens alliés. Certes, on n'est jamais trahi que par les siens, certes, il n'est de pire danger que ses amis, mais on ne peut pas attaquer son frère, on ne peut pas s'en prendre à celui qui, au front, a vomi à ses côtés, a fait ses besoins dans la même cuve, ce serait péché contre l'esprit. Le troisième critère effleurait l'irrationnel, il fallait que l'ennemi eût quelque chose de détestable. Et là, tous les registres étaient envisageables. Certains proposèrent les Albanais ou les Bulgares, pour cette raison un peu futile qu'ils étaient communistes. La suggestion ne récolta aucun suffrage. Les pays de l'Est, on avait déjà donné, et on avait vu ce que ça nous avait valu. « Et les Péruviens ?» dit quelqu'un. « Pourquoi détester un Péruvien ?» demanda l'un d'entre nous. Question d'une belle simplicité métaphysique. « Parce qu'ils ne parlent pas notre langue !» répondit un lointain ressortissant de Babel. Évidemment, c'était une bonne raison. Un petit ensembliste fit observer qu'à ce compte-là, nous pouvions aussi bien déclarer la guerre aux trois quarts du ghetto, et même à la Chine entière. C'est donc une bonne raison, mais pas suffisante. Nous continuâmes cet épluchage de nationalité jusqu'à ce qu'une illumination se produisit en moi. « Les Népalais !» exultai-je. Pourquoi détester un Népalais ? À cette question digne de Montesquieu, je donnai une réponse éblouissante. Parce que c'est le seul pays au monde qui n'a pas un drapeau rectangulaire. Un silence de scandale frappa l'assemblée. C'est vrai ? Demanda une voix déjà rauque. Je me lançai dans une description du drapeau népalais, assemblage de triangles, diabolo coupé en deux dans le sens de la longueur. Les Népalais furent déclarés ennemis sur l'heure. Ah, les salauds ! On va leur apprendre à ces Népalais, on va leur apprendre à ne pas avoir un drapeau rectangulaire comme tout le monde. Pour qui se prennent-ils, ces Népalais ? La haine fonctionnait. Les Allemands de l'Est étaient aussi outrés que nous. Ils demandèrent à faire partie des alliés pour cette belle croisade contre les drapeaux non rectangulaires. Nous ne fûmes que trop heureux de les enrôler. Se battre aux côtés de ceux qui nous avaient rossés et que nous avions torturés, ce serait émouvant. Les Népalais se révélèrent des ennemis singuliers. Ils étaient infiniment moins nombreux que les alliés. Au premier abord, ce détail nous parut sympathique. Que l'on pût avoir honte de la disproportion ne nous fut jamais venu à l'esprit. C'était plutôt agréable, cette supériorité numérique. Leur moyenne d'âge était supérieure à la nôtre. Certains avaient déjà 15 ans. Le seuil de la sénilité. Raison de plus pour les haïr. Nous leur déclarâmes la guerre avec une transparence sans exemple. Les deux premiers Népalais qui passèrent par là se virent assaillir par une soixantaine d'enfants. Quand nous les relâchâmes, ils n'étaient plus que plaies et bosses. Ces malheureux petits montagnards, à peine descendus de leur Himalaya, ne comprirent rien à la situation. Les enfants de Katmandou, qui devaient être 7 au maximum, tinrent conseil. Ils adoptèrent la seule politique possible, la lutte. Vu nos méthodes, ils avaient compris que des négociations diplomatiques ne serviraient à rien. Il faut reconnaître que le comportement des gosses de Sanitoun était la négation absolue des lois de l'hérédité. Le métier de nos parents consistait à réduire autant que possible les tensions internationales. Et nous, nous faisions juste le contraire. Ayez des enfants. Mais là, nous innovions. Une alliance aussi puissante, une telle guerre mondiale, tout ça contre un pauvre petit pays sans envergure idéologique, sans aucune influence, c'était original. En outre, à notre insu, nous complétions la politique chinoise. Pendant que les soldats maoïstes investissaient le Tibet, nous attaquions la chaîne de montagne par un autre flanc. Rien ne fut épargné à l'Himalaya. Mais les Népalais nous étonnèrent. Nous découvrîmes qu'ils étaient des soldats terribles. Leur brutalité dépassait tout ce que nous avions connu en 3 ans de guerre contre les Allemands de l'Est, qui étaient pourtant loin d'être des mauviettes. Les enfants de Katmandou avaient un coup de poing et un coup de pied d'une vivacité et d'une précision inégalées. À 7, ils étaient un ennemi redoutable. Nous ignorions ce que l'histoire a prouvé à plusieurs reprises. Aucun continent n'arrive à la cheville de l'Asie pour ce qui est de la violence. Nous étions bien attrapés, mais pas mécontents de l'être.